Accès libre avec Luc Fortin.
Lundi 3 février, avec Jean-Sébastien Laliberté de l'autre côté de la fenêtre. Monsieur Laliberté. Ah, il est occupé. Il est occupé à la recherche et qui va revenir comme personne en charge de notre petite revue de presse. La connaissant, il sera sûrement question d'élections américaines. On va causer autisme. Ouais, ça a fait la manchette la semaine dernière. Une personne qui a été maltraitée, pourtant dans un lieu qui est là pour bien la traiter. Aide médicale à mourir, ça change d'une semaine à l'autre. Semble-t-il que à partir du 12 mars, les gens qui vivent des problèmes de santé mentale ne pourront pas nécessairement profiter des mêmes droits que les autres. Et le basket en fauteuil roulant, est-ce que c'est de la négo ou c'est sérieux cette idée de sortir les baskets des Paralympiques de 2024, peut-être même de 2020? Et il sera question de vélo dans 30 secondes. Disait qu'il sera question de vélo parce que cette fin de semaine avaient lieu les championnats du monde de paracyclisme sur piste de l'Union cycliste internationale. Marie-Claude Molnar est au bout du fil. Elle qui est revenue au Québec, Marie-Claude, ou qui est encore en Ontario?
Non, je suis revenue au Québec d'hier.
Parce que t'as tourné en rond jusqu'à samedi soir, je pense.
Oui, j'ai fait beaucoup de boucles vers la gauche, jeudi, vendredi et samedi.
Un peu comme les patineurs de vitesse.
Effectivement.
Qui tournent toujours à gauche.
Oui, toujours vers la gauche, pas vers la droite.
Je lisais, avec Tristan...
Oui.
Chernov? Chernov? C-H-E-R-N-O-V-E?
Oui, Tristan Chernov.
Bon, vous étiez considéré comme une des deux fers de lance de l'équipe canadienne pour les championnats présentés à Milton cette fin de semaine. Je me demandais, est-ce que lorsqu'on voit ces communiqués-là officiels, ça motive, ça dérange ou ça laisse indifférent?
Je dirais que l'équipe en entier, on a vraiment eu une belle préparation. Tout le monde dans l'ensemble là, était prêt à amener là, ses meilleures performances et c'est ce qu'on a tous et toutes livré en fin de semaine. C'est certain que quand il y a des communiqués comme ça, oui c'est flatteur, c'est certain. Ouais. Mais au final là, ça reste là, qu'on regarde vraiment là, l'ensemble des performances comme équipe. Et puis comme je viens de dire là, tout le monde était prêt à performer à son meilleur.
Tu les lis ces communiqués là, t'es au courant ou ça tu laisses ça au département mise en marché?
Je pense que tout le monde est peut-être un peu plus au courant que moi, à vrai dire.
Ouais. Bon, je remarque, si je me fie aux communiqués émis par Sportcom, et si je me fie à ce que tu m'as écrit vendredi soir, t'as passé un beau week-end, et ce que j'aime, en fait, ça fait bizarre à dire, là, mais j'ai l'impression que t'as pas gagné de médaille. Est-ce que je me trompe?
Effectivement, j'ai pas remporté de médaille.
Je te dis, j'aime ça parce que j'ai l'impression que souvent, ou presque toujours, on parle de médaille. Et toi, tu sembles ravi de ta fin de semaine, même si tu n'as pas foulé le podium. D'abord, bravo, mais pourquoi?
Merci. Je veux dire, je cacherai pas que, de ne pas m'être retrouvée sur le podium, c'est certain que, oui, il y a une certaine partie de moi qui est un peu, je dirais pas déçue ni triste, mais ça me fait quand même un petit quelque chose. Mais en même temps, je me dis, je regarde les performances que j'ai pu livrer, surtout à la poursuite individuelle, Puis je me dis que, écoute, il reste encore un petit écart à combler, mais qui est quand même pas si grand que ça, mais quand même grand en même temps. C'est pas quelque chose d'impossible. C'est quelque chose c'est du travail qui va être difficile à faire au cours des prochaines semaines, des prochains mois, mais c'est rien d'impossible. Donc, je repars la tête haute, puis je me dis qu'on a quelque chose d'intéressant sur quoi bâtir là, en vue de ce qui s'en vient.
En conversation avec Marie-Claude Molnar, on parle de sa participation au dernier championnat du monde sur piste de paracyclisme qui avait lieu cette fin de semaine à Milton, en Ontario. Marie-Claude, est-ce que je comprends que le sport, le calibre est de plus en plus fort parce que tu fais tes meilleurs temps et tu n'arrives pas sur le podium? C'est donc que tout le monde s'améliore et en soi, c'est une bonne nouvelle?
Oui, c'est une excellente nouvelle. C'est aussi un signe comme quoi il faut vraiment redoubler d'efforts là, si on veut garder le cap. Mais je veux dire, là, en ce moment, tout va bien, puis on a quelque chose de positif sur lequel bâtir.
Tout le monde veut savoir si on a évalué ou testé ton pipi. Mais comment ça fonctionne, ces histoires-là?
Oui, j'ai eu un test antidopage. En fait, j'en ai plusieurs durant la saison.
Okay.
Et puis, la manière que ça fonctionne, c'est que peu importe l'heure, peu importe la journée, les agents du Centre canadien de l'éthique du sport, donc le CCES, savent où me trouver.
Oui.
Donc, ils vont cogner à ma porte à 6h moins quart le matin, puis on dit, bon, on vient recueillir un échantillon.
Mais si tu désactives ta petite option là, sur ton cellulaire, ils pourront pas te trouver?
Il n'y a jamais été question de désactiver cette fonction-là. Non, c'est un calendrier qui est rempli à tous les 3 mois. Puis,
donc, ce n'est pas pendant les compétitions qu'on le fait. C'est à n'importe quel moment.
À n'importe quel moment, oui.
OK. Les installations à Milton se comparent comment par rapport à, disons, d'autres sites à travers le monde?
Les installations de Milton se comparent avec les autres installations dans le monde, dans le sens il y a quelque chose de spécial à Milton, puis ce quelque chose de spécial-là qui se retrouve pas nulle part, c'est que le vélodrome de Milton, c'est à la maison.
Oui, ouais.
Donc, il y a comme une petite aura supplémentaire, mais en termes de calibre de l'infrastructure, le vélodrome de Milton est d'une extrême grande qualité.
En général, tu t'entraînes où, toi, à Bromont?
Oui, je m'entraîne à Bromont sur la piste quand c'est possible.
L'été.
Mais là, l'extrême bonne nouvelle, c'est que le vélodrome de Bromont va dorénavant être couvert.
Ah. Donc,
c'est de 2021, si je me trompe pas.
OK.
Alors, ça va nous aider grandement parce que ça veut dire qu'on va avoir à voyager encore moins pour s'entraîner sur la piste.
Bien sûr. Toi, tu prévois tourner en rond à gauche jusqu'à quand?
je veux dire, au moins jusqu'à Tokyo.
Okay.
C'est vraiment mon objectif. Par la suite, là, je pense que je vais prendre une année à la fois. Mais pour l'instant, mes performances sont encore là. Je réalise encore des super bons temps. Je fais encore des gains. Alors, mon équipe et moi, on est vraiment confiants là, qu'on peut poursuivre sur cette lancée-là.
Malheureusement, j'ai pas pu tomber sur tes courses cette fin de semaine lorsque je suivais la compétition sur le streaming. C'est normal qu'il y ait de la musique pendant que vous rouliez?
Oui, c'est possible.
Okay.
Ça fait partie de l'animation.
C'est quoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de foule ou parce que, je sais pas, moi ça m'agaçait en tout cas. Peut-être parce que justement, ne voyant pas la course, j'écoutais les commentateurs et j'entendais du techno, là, puis je trouvais que ça enlevait le sérieux de l'affaire. Ça, c'est moi, là.
OK. Écoute, en toute honnêteté, quand je roule, j'entends pas la musique.
OK, OK.
Je suis vraiment concentrée sur mon effort, j'entends rien.
Est-ce qu'il y a une oreillette où l'entraîneur vous dit, là, t'es 2 secondes en retard, 1 seconde, ou vraiment, vous êtes livré à vous-même?
Non, il n'y a aucune oreillette. Donc, puis on n'est pas livré à nous-mêmes non plus.
Okay.
Sur le bord de la piste, dans le premier virage, mon entraîneur va être là et puis il va me donner le chrono à chaque fois que je vais passer. Et puis, mais surtout dans la poursuite, parce que le 500 mètres, étant donné que c'est seulement que 2 tours, je veux dire, ça va vraiment vite. Il n'y a pas de nécessité d'avoir un temps comparativement à un événement comme la poursuite où c'est 12 tours, où là, le secret, si on veut, c'est vraiment de savoir gérer son effort et où les temps que mon entraîneur va me donner à chaque tour vont être cruciaux.
Ouais. J'ai l'impression que pour une personne voyante, en tout cas, le vélo le plus intéressant est celui où il y a plus d'un concurrent en piste, que ce soit la poursuite, que ce soit, bon, à l'extérieur. Là, vous avez le contre-la-montre, vous avez le kilo, vous avez, je pense, une course, on appelle ça lancée. Quelle est la différence entre toutes ces courses où vous êtes seul en piste?
OK. Toutes ces courses-là, ça fait partie d'un gros événement qui s'appelle l'Omnium, qui regroupe quatre événements. Les quatre événements de l'Omnium, il y a le 500 mètres, qui est deux tours, et c'est un départ arrêté. Le 200 mètres lancé, c'est un effort qui est lancé. Donc, l'entraîneur nous pousse sur le vélo, sur la piste.
Et comme puis, quand on est tout petit.
Oui, c'est ça. Exactement. Donc, on s'est poussé sur la piste et puis on a trois tours et demi pour ensuite là, plonger du haut de la piste vers le bas et franchir la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. La poursuite individuelle, comme j'ai mentionné, qui est 12 tours, donc 3 km pour les femmes, 4 km pour les hommes. Et finalement, le dernier événement de l'Omnium, c'est le Scratch, qui est une course généralement de 10 km, qui est 40 tours pour les femmes. Les hommes font une soixantaine de tours, si je ne me trompe pas.
Et là, vous êtes encore seul en piste?
Pour le Scratch, non.
Okay.
Ça, c'est la différence. Le Scratch, c'est une course en peloton. Donc, c'est comme une course sur route.
Ah, wow! C'est
que c'est sur la piste et puis on n'a pas de frein et on ne peut pas changer de vitesse.
Quel est l'angle des coins?
L'angle de virage, c'est 42 degrés.
OK.
Oui, puis dans les droits, c'est 13 degrés, si je me souviens bien.
Ah, c'est pas nivelé dans les droits. Donc, c'est 13 degrés vers le centre de la piste.
Exactement,
okay.
Oui, c'est ça.
Okay. OK.
Donc, c'est pas tout à fait droit, c'est légèrement incliné.
Ouais, ouais.
Mais dans les virages, j'avoue que c'est quand même assez impressionnant. La première fois, on se dit, oh, mon Dieu, comment est-ce que je vais tenir?
Ouais, ouais.
Mais ce qui fait tenir le vélo, c'est vraiment la gravité. Et la gravité, on l'atteint par la vitesse sur le vélo.
La surface est en bois?
Oui, la surface est en bois.
Dernière question. Si je me souviens bien, je pense que c'est quoi, C3, ou je ne sais plus c'est quoi ta classification, mais il me semble que tu es traumatisé crânienne. Est-ce qu'il y a dans ton entraînement des choses que tu dois surveiller comparativement peut-être à un cycliste qui n'a pas cette condition-là?
La catégorie dans laquelle je compétitionne, c'est la catégorie femme C4. Ça va de C1 à C5. L'athlète C5 qui est l'athlète qui est le moins affecté par son handicap. Et puis, au niveau de l'entraînement, non, il n'y a rien de différent là, par rapport à un athlète able-body qu'on va appeler, là, que je dois faire, à laquelle je dois faire attention.
Donc, pas de migraine, pas de money, la pulsation, il ne faut pas dépasser. OK, parfait.
Non, j'ai pas de limitation.
Ben, Marie-Claude, bravo pour ton week-end. Je suis content que tu sois contente parce qu'il me semble que ça doit. Moi qui n'aimais pas nécessairement pratiquer lorsque je jouais au goalball, j'aimais jouer. Ça doit être tellement plus satisfaisant de s'entraîner lorsqu'on revient avec des résultats avantageux, favorables. Puis en même temps, ça te donne juste assez de marge pour vouloir te dépasser encore plus parce que c'est quand les qualifs pour Tokyo?
Les qualifs pour les Tokyo, c'est jusqu'au 20 juin, il me semble, quelque chose comme ça. Bref, moi, je me concentre sur pousser très sur mes pédales et puis je donne tout ce que j'ai.
Tokyo qui commence le 25 août. Marie-Claude Molnar, merci beaucoup.
Merci à toi.
Salut.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. We take Kyoto to the bay.
L'original est de Clean Bandit, la version de Pentatonix, Rather Be, sur Canadem, tiens, la radio de Visez-vous, avec Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche, mon nom est Luc Fortin. Nous sommes dans Accès libre, où cette fois-ci, on se tourne vers une situation qui est vraiment pas agréable. Heureusement, elle est tombée sur la bonne personne. On a constaté plusieurs problèmes dans un lieu d'hébergement où résidait une personne atteinte d'un TSA. Et la sœur de cette personne-là a décidé de porter plainte au CIUS qui supervise ce lieu, tout en retirant temporairement la sœur. Et bonne nouvelle parce que Electra elle-même est responsable de l'intervention familiale chez Autisme Montréal. On parle à quelqu'un qui, elle aussi, exerce le même boulot, soit Nathalie Boulet. Je suis content que ça tombe sur Electra et sa sœur parce que sinon, peut-être que ça n'aurait pas bougé aussi rapidement et avec autant de fougue. C'est quand même une bonne chose. Mais Nathalie, si vous pouviez peut-être nous expliquer tout en vous saluant les problèmes qui ont été répertoriés parce qu'il y en a plusieurs.
Oui, effectivement. Bonjour. Il y a effectivement plusieurs problèmes qui ont été nommés, dont l'absence du nouveau gestionnaire en présence sur les lieux pour un petit peu permettre une transition plus adéquate. Également du personnel sur place non compétent pour gérer des personnes autistes avec des troubles de comportement, donc erreur de médication, paroles méprisantes aussi vis-à-vis des personnes usagères. Et je dirais pour comble aussi, une fois que ma collègue Electra a eu fait la dénonciation de ça, ben, il y a eu des représailles dans la ressource, dont entre autres une vidéo de sa sœur qui a été filmée donc toute nue.
Sur la cuvette
Sur la cuvette, soi-disant pour prouver que la cuvette aurait été brisée par sa sœur, mais c'est encore là, c'est un peu rocambolesque comme explication, là. Oui, alors c'est tombé sur Electra, mais effectivement, on entend malheureusement souvent des parents qui nous dénoncent des situations. Souvent, ils ont très, très peur de parler parce que ça reste les lieux d'habitation de leur enfant.
Mais ce qui est étonnant, c'est que l'établissement en question, qui est basé dans l'arrondissement de Saint-Laurent, n'a pas dit « Oups, on a un problème, on va essayer de s'améliorer ». Au contraire, on a essayé de se justifier, on a montré les dents, on a montré les griffes. C'est assez particulier. Est-ce un problème avec cette résidence ou avec les résidences sur la supervision là, de Myriam Home and Service? Parce que je comprends que c'est une nouvelle administration qui administre cet hébergement-là depuis la fin de 2019.
Tout à fait, tout à fait. En fait, ça fonctionne, les résidences pour personnes autistes, ça fonctionne avec des appels d'offres avec les CIUS. Okay? Donc là, il y a eu effectivement un changement de gestionnaire. Dans ce cas-là, la résidence appartient à la Fondation Myriam et c'est le gestionnaire qui change. Okay? Mais les usagers ne sont pas censés être déplacés.
Bien sûr.
Okay? Après, par rapport à la question, je ne crois pas que, enfin, je suis même sûre que c'est pas un cas isolé, okay. Malheureusement, okay. Que ce soit au centre Myriam, mais dans les autres CIUS, on a d'autres échos. Donc, il y a des ressources qui sont très bien selon un petit peu le gestionnaire. Malheureusement, ça repose beaucoup sur le gestionnaire qui est en place. Et il y en a d'autres où malheureusement, on a des situations vraiment aberrantes, où il y a des parents qui malheureusement, des fois, comme je disais tantôt, là, se sentent un petit peu mal de devoir dénoncer parce qu'ils ont peur qu'il y ait des représailles sur leurs enfants qui habitent dans ces ressources-là.
J'ai remarqué une certaine médiatisation depuis 2 semaines de ce cas-là. Est-ce que je me trompe ou vous semblez avoir... en avoir un peu là, contre le CIUS centre-ouest de l'île de Montréal qui est responsable de la supervision de ce service d'hébergement?
Ben, en quelque sorte, je veux dire, quand on a quelqu'un qui dénonce une situation de négligence, de maltraitance vis-à-vis d'une personne, on devrait l'accompagner, on devrait prendre des mesures urgentes pour remédier à ça. Puis là, ce qu'on entend comme réponse, c'est qu'on va faire une enquête administrative qui va prendre un mois. En attendant, il se passe quoi pour les gens qui sont en place? Il se passe quoi pour ma collègue qui, elle, a pris sa sœur avec elle? Pour l'instant, il n'y a rien qui est mis en place pour ça. Là. C'est pour l'instant, on enquête et on regarde un petit peu...
Mais Nathalie Boulet, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est normal quand même qu'on ne dise pas, OK, on a eu une plainte, on met tout le monde dehors puis on repart sous un autre nom lundi matin. C'est normal qu'il y ait enquête et qu'il manque, que ça prenne du temps.
Il y a eu des problèmes à la base au niveau de la transition. Quand c'est des jeunes qui ont des troubles de comportement, on va essayer de faire une transition vraiment plus longue peut-être que celle qui a été prévue par le centre Myriam.
Parce au départ.
Que c'est une nécessité pour les gens qui habitent là. Ouais. Donc, il y a eu des problèmes à la base, okay, en amont. Et effectivement, on ne peut pas décider de... On va mettre quelqu'un demain matin... Peut-être qu'il y a des gens quand même compétents qui connaissent déjà la situation, qui ont déjà travaillé dans cette ressource, qui pourraient être plus à même de le faire. Mais on ne peut pas laisser certaines personnes en place non plus en se disant « Ah ben, on attend un mois parce qu'en attendant, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec les jeunes qui habitent là. » Ouais.
Quel type de surveillance est généralement offert par le ministère dans ce genre d'endroit? Est-ce qu'il y a des spot checks sans avertissement? On arrive à 2h15 un mardi après-midi ou on informe de notre visite le mercredi matin, donc on a le temps d'organiser tout ça? Ou...
Alors, normalement, de ce qu'on sait, c'est que les visites doivent être annoncées, effectivement, par les gens du CIUS, là, qui voudraient le contrôle qualité, on va dire, qui voudraient aller visiter. Ça doit être effectivement annoncé. Donc ça aussi, c'est regrettable parce qu'effectivement, on peut s'organiser à ce moment-là. Et de toute façon, il manque une qualité dans ces visites-là. C'est-à-dire, c'est bien beau d'aller visiter, mais qu'est-ce qu'on regarde à ce moment-là? Parce que là, pour l'instant, ce qui est regardé, c'est est-ce qu'il y a bien des draps sur le lit? Est-ce que la boîte de soins infirmiers est placée au bon endroit, etc., etc. Donc, c'est toujours en termes de technicité, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veille au bien-être de l'usager à l'intérieur? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que sa médication aussi est donnée de manière adéquate? Est-ce qu'il semble aller bien? C'est des jeunes, des fois, qui ne parlent pas, pour la plupart, ne parlent pas. Donc, comment on va s'assurer de son bien-être? C'est en ayant une présence plus accrue. C'est pas en venant une fois toutes les 6 semaines ou une fois, même des fois, ça peut être plus long, qu'on va pouvoir se rendre compte de tout ça. Donc, c'est pour ça que quand on a une famille qui alerte, qui est présente très souvent déjà à la base, on devrait prendre sa parole bien plus au sérieux que ce que je trouve qui a été fait là par le centre Myriam.
Ouais. Je crois savoir que l'employé qui a pris la vidéo a été congédié. Est-ce que c'est suffisant?
Disons que il fallait, je pense que c'était pas la personne qui était à sa place dans ce milieu de travail là, ok. Mais il y a aussi son gestionnaire, la personne qui a décidé de l'embaucher. Faut savoir que dans les résidences, après le gestionnaire est choisi selon un appel d'offres et après il embauche qui il veut. Avec plus ou moins de compétences. Souvent, il y a un gros travail puisque les salaires proposés sont pas énormes.
C'était ma prochaine question.
Formation.
Ouais.
Oui. Alors, on ne peut pas demander à n'importe qui de travailler avec des personnes, parce que tout le monde ne l'a pas, on va dire. Donc, ça fait partie. Et puis, il faut les encadrer, il faut les former. Faut être sûr qu'on ne peut pas les laisser tout seuls et penser que tout va bien aller. Il faut un minimum de présence aussi du gestionnaire. Et ça aussi, c'était un manque qui avait été noté là, de présence du gestionnaire pour un petit peu accompagner son équipe.
Mais Nathalie, est-ce que j'entends que les salaires ne sont pas concurrentiels en ce sens qu'on demande une spécialisation vraiment importante à quelqu'un, mais en offrant, je ne sais pas moi, 15 $ de l'heure ou 16 $ de l'heure comme
ou
certains...
Ou des fois moins. Ou des
aïe,
fois moins.
Aïe,
il y a beaucoup
aïe.
De résidences qui ouais. vont... on connaît d'autres résidences où il y a des bonnes personnes, mais même là, ils expliquent que les allocations qui sont données par le ministère aux ressources vont dépendre d'un système de cotation un petit peu complexe là, sur lequel ils se battent en ce moment là, parce que ça rend pas justice forcément. Alors il y en a qui vont pouvoir se mettre de l'argent ouais. dans les poches si jamais il y a aucune activité qui est proposée aux jeunes ou s'il y a des ratios qui n'assurent pas la réelle sécurité. Si par exemple vous laissez une seule personne en présence avec quatre jeunes qui ont des troubles de comportement, ouais. ben là c'est sûr on n'assure peut-être pas la sécurité.
Comme
ou on
certaines
empêche
garderies même... en milieu privé là, qui font
tout
la même
fait,
chose
oui.
parce qu'ils ne sont pas tenus de répondre à certains standards gouvernementaux. Et là, ben, ce que j'entends, sans excuser l'embauche, c'est que parfois il y a des situations où on a besoin de quelqu'un au plus vite et des fois on n'embauche pas la bonne personne. Nathalie Boulay, en tout cas, on garde un œil ouvert sur ce dossier-là. Merci beaucoup.
Oui, merci à vous.
Elle est intervenante familiale communautaire chez Autistes Montréal. Petite pause, revue de presse avec Christiane dans 2 minutes.
Vous écoutez Accès libre.
C'est bien trop vrai. Vous écoutez Accès libre. Avec Christiane Compagnon, à la recherche et à la revue de presse. Jean-Sébastien toujours de l'autre côté. On a besoin de lui jusqu'à la fin de l'heure. Madame Compagnon, bonjour.
Bonjour.
Les élections américaines qui commencent pour vrai aujourd'hui.
Oui, les primaires démocrates
mardi,
qui commencent
lundi,
en fait...
lundi 3.
Voilà. Et les primaires démocrates qui commencent en fait non pas avec une primaire
non.
classique où les gens se contentent. Une primaire ordinaire, là, comme la semaine prochaine au New Hampshire, les gens vont... Vous regardez les heures d'ouverture de votre bureau de vote. Si vous êtes en situation de handicap, vous regardez s'il est accessible. Et puis, vous allez voter. Et vous programmez probablement un transport dans certains cas. Mais les caucus de l'Iowa, c'est un procédé un peu particulier où il faut être présent toute la soirée sur place. Les gens sont répartis. Je ne vais pas vous l'expliquer dans le détail, mais les gens sont répartis dans des sous-sols d'églises, des hôtels, même dans des maisons privées. Et là, ils doivent se placer en groupe dans la salle, selon le candidat qu'ils soutiennent.
C'est un petit peu comme les courses à la chefferie dans nos partis, j'ai l'impression. Tu sais, le samedi, là, quand on a fini de voter, puis là, on se retrouve dans nos petits groupes pour discuter. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on vote-tu pour lui encore ou on s'ajoint à l'autre équipe?
Mais en fait, là, c'est carrément, on calcule combien il y a de personnes dans chaque petit groupe et les groupes qui ont moins de 15% de l'Assemblée présente, ils doivent soit rentrer chez eux ou aller dans le groupe d'un autre candidat.
Ouais.
Tout ça implique... Donc, un lundi soir enneigé, souvent, puisque c'est en février, et puis que ça se passe pas en Californie, ça se passe en Iowa, d'aller sur place dans une salle bondée.
Bon, Jean-Sébastien, quelle est la température à Des Moines? Tu nous diras ça à la fin du segment de Christian.
Et puis, des salles où les personnes qui ont des sensibilités sensorielles, ça peut être compliqué, mais surtout... les personnes en situation de handicap, il y a eu un article dans le New York Times qui a été reprise dont certaines données ont été reprises dans une chronique du magazine Forbes. Il y a des personnes qui ont essayé de s'informer à savoir des choses aussi de base que y a-t-il une rampe ou vais-je pouvoir avoir une chaise pour m'asseoir?
Ben voyons.
Et ils ont de la difficulté à obtenir des réponses. Au fond, l'histoire du New York Times a révélé que les efforts d'accessibilité pour les caucus n'ont été entrepris que l'année dernière et rendus publics par les deux partis, parce qu'il y a aussi des caucus républicains qui fonctionnent un peu différemment, mais bon, dans le cas des républicains, il n'y a pas vraiment d'opposition. Le processus est moins nécessaire, disons. Mais il y a eu un tweet annonçant les mesures d'accessibilité du côté des démocrates. Et chez les républicains, on a dû se fier sur les milieux, sur le milieu associatif pour répandre la nouvelle.
Tu m'expliquais avant l'émission que ce n'est pas le directeur général des élections comme ici ou bien l'État qui gère l'universalité du vote, mais chaque formation, et il pourrait y avoir, selon le profil de l'un et de l'autre, des petits tours de passe-passe des fois pour éviter que certaines personnes aient plus de facilité de voter ou moins de facilité de voter.
Bien, ce sont les partis qui organisent le processus quand il s'agit de caucus et non pas quand il s'agit de primaire.
Ouais.
Une chose est sûre, c'est que si on pense pas nécessairement aux personnes en situation de handicap, mais si on pense aux aînés, par exemple, qui, de manière générale, dans les sondages, soutiennent particulièrement des candidats modérés. Mais si c'est trop dur pour eux d'aller faire la soirée de caucus, mm-hmm. c'est des candidats qui auront peut-être une moins bonne représentation à la soirée.
Ouais.
Donc, j'avais jamais pensé à ça sous cet angle-là, mais ça peut aller jusqu'à influencer le résultat si une tranche de l'électorat, ce mode-là, qu'on défend aussi pour toutes sortes de raisons, parce qu'il oblige en effet les candidats à aller beaucoup, beaucoup sur le terrain, à d'abord convaincre les gens d'aller faire les soirées de caucus.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est un système qui cause souvent des surprises parce qu'il donne beaucoup d'importance au deuxième choix, parce que vous pouvez vous mettre ailleurs après. Mais on tient beaucoup à cette politique qui oblige les candidats à venir se promener dans l'État. Sauf que de plus en plus, parmi la contestation, il y a le fait que c'est peu accessible.
Ben, as-tu une autre petite nouvelle? Parce qu'on veut parler d'aide médicale à mourir, il y a pas mal de stock, mais...
Non, en fait, je voulais vraiment surtout m'attarder au cas de...
Jean-Sébastien aussi dit, je dois faire mon bulletin météo.
Non, parce que... On va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous en parler demain.
Ouais, ouais.
Et je trouvais intéressant de savoir que dans un système qu'on dit justement, qu'on veut garder parce qu'il est si démocratique,
ben oui.
de souligner le fait qu'il l'excluait déjà.
Et avec, tu sais, l'ADA, et c'est un peu comme, tu sais, la Scandinavie où tout est parfait au dire de certains. Ben là, on a l'impression des fois que c'est le paradis des gens qui ont une limitation fonctionnelle, les États-Unis, mais on se rend compte qu'il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Monsieur La Liberté... est-ce que l'on voit la carte derrière vous?
Alors, on peut voir un vent qui provient du nord sur Des Moines, en Iowa. Les vents peuvent atteindre 29 km/h. Il fait présentement 3 degrés Celsius ou 37 degrés Fahrenheit. 1% de précipitation avec 73% d'humidité.
Donc, rien pour empêcher le transport adapté de fonctionner.
En France, ça prend pas grand-chose pour canceller le transport.
C'est une question qu'on peut se poser parce que c'est pas que dans les grandes villes qu'il y a des caucus.
Ben non,
c'est aussi dans les
dire.
Petites villes.
C'est...
On peut se poser des questions sur le transport adapté
sur
aussi.
Sur la ruralité et de la possibilité de se déplacer pour monsieur et madame tout le monde. Merci, Christiane. Doris Provencher, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ah, ça va pas pire.
Bon, vous êtes directrice générale de l'Association des groupes d'intervention et en défense de droits en santé mentale du Québec. Petite introduction, la ministre de la Santé, Danielle McCann, a dit la semaine dernière, au moment où Québec se penche sur l'aide médicale à mourir, qu'il y aurait des changements, c'est-à-dire que les personnes qui ont une maladie neurologique et qui répondent aux critères de la loi, pourront recevoir l'aide médicale à mourir après le 12 mars et comment, même si elles ne sont pas en fin de vie. Par contre, nous prenons une pause essentiellement pour les personnes qui ont un problème de santé mentale. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ce ralentissement, ou ça... Disons, ça nous met un petit, ça nous fait craindre pour les droits de ces gens-là.
Ben, écoutez, on a été dans les premiers à dire on arrête la machine.
D'accord.
Parce que on est dans le flou. Bien sûr que le jugement, le dernier jugement et de la Cour suprême et de la Cour supérieure du Québec, effectivement, parle de douleurs. Attendez, j'ai le mot, parce que c'est des souffrances physiques ou psychiques constantes. Donc, la porte est ouverte pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale et la Cour supérieure l'a nommé. Et par contre, ce qu'elle a dit aussi, c'est ça doit pas être nécessairement être en lien avec un diagnostic psychiatrique. Ça doit être en lien avec la souffrance et les douleurs psychiques que la personne elle vit, OK?
Ouais, ouais.
Première des choses. Deuxième des choses, c'est parce que la ministre, écouté. Moi, j'étais dans mon salon, j'écoutais les nouvelles. Puis Atlante, ça, tout bonnement, elle répondait à une question d'un journaliste. Oui, oui, les personnes aussi qui ont un problème de santé mentale pourront y avoir accès. Alors là, branle de combat, ouais, parce ouais. que on se bat sur quoi? Qui va décider ça? C'est pas vrai que ça va être juste les psychiatres. Ça doit pas être, à notre avis, c'est pas juste une question de psychiatres et de médecins. C'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus... nous, vous savez, ici, on travaille avec les personnes qui vivent un problème de santé mentale.
Justement, parlez-moi des gens que vous représentez, oui. les associations, et surtout, y a-t-il unanimité, consensus, ou c'est divisé? Parce que, bon, vous ne pouvez pas parler au nom de tous, là, puis on n'est pas là aujourd'hui pour dire si vous êtes pour ou contre quoi que ce soit.
Bien sûr.
Mais qui représentez-vous?
C'est ça. De un, je veux préciser, on n'a pas d'opinion encore, là. On n'y a pas réfléchi.
D'accord.
Ça nous tombe comme...
Ouais.
On le savait que ça s'en venait, mais hein, vous savez comment que c'est.
On veut prendre
Alors,
le temps.
Donc, c'est cela. Alors donc, nous, on ce sont des groupes, des organismes communautaires qui sont membres ici. Il y a des groupes de ce qu'on appelle des groupes de promotion-vigilance, c'est-à-dire des groupes d'entraide, des lieux où les personnes vont, il y a de la formation, il y a toutes sortes d'affaires. Puis, il y a une vigilance au niveau des droits. Il y a aussi, dans toutes les régions du Québec, un groupe régional de promotion et de défense de droits en santé mentale.
Okay.
Aussi, la majorité sont membres ici. Mais nous, moi, M. Fortin, ça fait 30 ans que je travaille avec des personnes qui vivent un problème de santé mentale parce qu'ils sont majoritaires sur nos CA, ils sont impliqués, ils sont présents et ils sont là.
Mm-hmm.
Et c'est les personnes qu'on représente. Et deuxièmement, vous comprendrez, on n'a même pas eu le temps d'aborder la question avec nos membres. Donc, ça, là, ça va prendre des mois.
Oui, OK.
Hein?
Okay.
Et je pensais, parce que je suis allée lundi dernier, il y avait le forum
ouais.
Sur les modifications à la loi sur les soins de fin de vie, et la ministre de la Santé, elle a bien dit, ça va prendre le temps que ça prendra.
Mm-hmm. Ce qui est bien.
Oui, mais je suis pas sûre dans les faits. Il y a des choses là qui se passent en ce moment, puis on dirait qu'ils veulent que ça soit peut-être un peu plus rapide que ce qu'elle a dit. C'est sûr que le gouvernement du Québec, il y a un jugement qui a été émis, qui a été bien sûr. Mais toute la société civile a dit au gouvernement, puis lisez les journaux, hein, vous avez vu les articles qu'il y
ouais,
en a
ouais.
tous les jours. Alors, il faut prendre le temps, il faut réfléchir. Et la seule position que je pourrais vous dire par rapport à notre association, c'est qu'il faut que les personnes qui vivent un problème de santé mentale soient les premières consultées.
Mm-hmm.
Et pour nous, ce sont elles les expertes. Ce sont elles qui vivent ce qu'ils vivent. Parce que vous savez, aussi, moi, en général, là, une personne a 3 diagnostics psychiatriques. En moyenne.
OK.
Les gens que je connais.
OK.
Parce que c'est pas une science exacte, là. Hein? Parce qu'il n'y a pas de test pour déterminer un diagnostic psychiatrique.
Donc, vous voulez dire qu'elle a 3 diagnostics dans sa
Bien
vie,
sûr.
C'est-à-dire
j'en
un diagnostic erroné qui est remplacé par un autre?
Oui, elle change de psychiatre, elle peut changer de diagnostic. Moi, il y a une personne que je connais, elle en a 7.
Wow.
Ça va de la dépression à la schizophrénie.
OK.
Alors, lequel? Il n'y a rien de scientifique sur un diagnostic psychiatrique.
Mais ça change quoi, Mme Provencher, le diagnostic? En bout de ligne, c'est est-ce que la personne est bien avec elle-même et veut continuer ou si vraiment elle souffre trop, peu importe le diagnostic, non?
C'est-à-dire que ce que la ministre elle nous a présenté au début, là, hein, puis qu'elle disait que c'est le Collège des médecins qui doit se prononcer, puis il y avait 2 diagnostics psychiatriques dans la liste.
Oh, OK, seulement.
C'est pour ça que j'amène la question des diagnostics.
Okay, je comprends.
Mais alors, effectivement, une personne, moi je connais plein de gens qui ont souffert le martyr, qui ont été très, très souffrants, puis là, ils vont bien. Puis il y en a d'autres qu'ils souffrent toujours.
Ouais.
Qu'il y en a d'autres. Alors, vous savez, moi, je me dis qu'on y donne le nom qu'on veut. La souffrance, là, c'est la personne elle-même qui est en mesure de l'évaluer. Au niveau d'un problème de santé mentale, c'est beaucoup la personne, c'est son vécu, c'est son histoire, c'est son...
Mais j'entends, qui dit mauvais diagnostic dit peut-être mauvaise médication, mais une fois qu'on a trouvé la bonne médication, la personne peut aller bien. Elle aurait peut-être décidé de tirer la plug avant, alors que c'était pas nécessairement... Ben oui, il y avait un mal-être, mais c'était surtout un mal traité.
Mais vous savez, il n'y a pas que la médication qui aide le monde.
Oui, oui, oui.
Qui a un problème de santé mentale. Ça, c'est un outil.
Oui.
Mais toutes les relations qu'elle vit, par exemple, dans les groupes communautaires, le pouvoir qu'elle prend dans des organisations, elle donne de la formation avec nous, elle participe à des colloques, elle prend sa place comme citoyenne. Hein? C'est, ça aussi, vous savez, ça aide.
Là, j'ai vu quoi qu'il y avait un forum sur l'accès, l'aide médicale à mourir en santé mentale qui serait tenu à la fin de février?
Ben oui, ou au mois de mars.
Puis une consultation en ligne qui serait organisée également. Donc, la ministre promet différentes formes de consultation. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle?
Écoutez, en tout cas, moi, j'ai participé depuis le mois de mai de cette année. J'ai participé à 3 forums organisés par le ministère de la Santé.
Okay.
Un forum jeune santé mentale, un autre adulte santé mentale, et le dernier, la semaine dernière sur les soins. Alors, je vais vous expliquer juste brièvement, très rapidement, comment ça marche. On est mélangé, on s'assoit à des tables, il y a des présentations, et puis nous avons un cahier devant nous avec des questions. La semaine dernière, là, on parlait de l'inaptitude, qui est un concept. Est-ce que les gens qui sont considérés inaptes devraient avoir accès à l'aide médicale à mourir? Bien, à ma table, là, il y avait une question, on avait 8 minutes pour y répondre.
Ah, OK.
Puis après, il y a 25 tables, alors il y a 25 plénières.
OK.
C'est ça le fort.
Donc, c'est pas parfait.
Vous me suivez?
Oui, oui. Ouais.
Alors, je dis pas que ça sert à rien.
Non.
Je dis pas que c'est pas bon. Mais ça, là, c'est une façon de faire. Pourquoi qu'ils font pas, quand il y a eu, avant de faire la loi sur les soins de fin de vie, il y a eu une commission qui s'est promenée à travers tout le Québec, la commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Ils ont pris 2 ans, ils sont promenés à travers le Québec, ils ont consulté tout le monde, et les parlementaires étaient impliqués aussi. Pourquoi qu'on ne fait pas ça? Vous me suivez?
Ouais. J'ai une question, parce que, bon, j'en jasais cette fin de semaine avec des amis, évidemment, bon, c'est un sujet dont tout le monde parle, c'est
ainsi. Bien sûr.
Alors, vous réagissez comment au dire du président de l'Association des neurologues du Québec, qui pose la question, que dit-on à quelqu'un à qui... on va donner l'aide médicale à mourir, mais qui ne comprend pas sur la base de papiers signés il y a 5 ans. Et je me disais, waouh! Mais là, il y en a d'autres qui me disaient, oui, mais si la personne a signé il y a 5 ans, puis qu'aujourd'hui, supposons, elle est atteinte de démence, mais il y a 5 ans, elle était d'accord, bien, elle devrait être encore d'accord. Puis là, je me dis, ouais, est-ce que c'est un raccourci ou. Parce que les gens ont peur de se retrouver. Je pense que les gens pensent à eux-mêmes là-dedans.
Ben oui, c'est sûr que c'était peurant. C'est sûr que. C'est une vaste question, parce que là, on est vraiment dans des concepts légaux d'aptitude et d'inaptitude. Moi, tout ce que je peux vous dire, actuellement, vous savez, une personne là, qui est sur curatelle publique, par exemple, elle est considérée comme inapte, par exemple, à prendre soin d'elle-même et de ses biens. Il existe aussi une notion au niveau de la loi qui s'appelle « si la personne qui est inapte refuse catégoriquement, on doit tenir compte de son avis. »
D'accord.
Elle est considérée inapte. Par exemple, il y a eu des personnes que je connais, moi, qui ont poursuivi le curateur public parce que le curateur public était d'accord avec une décision, puis eux autres, ils n'en voulaient pas. Bien, ça s'est rendu devant le juge.
Mmh.
Et la personne, elle a pu s'exprimer, puis elle a expliqué, puis elle a gagné son point.
OK, tant mieux.
Alors, par contre, par rapport à votre question à vous, je n'ai pas de réponse.
Ouais, ouais.
Mais vous voyez comment c'est compliqué.
Oui, oui, oui. Et
c'est
pour ça que...
Vous voyez pourquoi ça va prendre du temps. Nous, vous savez, la GIDE, on n'a pas de position. La position qu'on va avoir, ce sont nos membres qui vont la donner.
J'ai l'impression que ça va prendre du temps et que ça ne sera pas parfait non plus, même lorsque tout ça... Ouais,
mais,
c'est sûr.
Mais par contre, ce que je peux vous dire aussi, effectivement, les personnes qui ont un problème de santé mentale... leurs droits, ils doivent être traités comme
ouais,
tout le monde.
Ouais. Et justement, elle est directrice générale de l'Association des groupes voilà. d'intervention et de défense des droits en santé mentale au Québec. Doris Provencher, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. You when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance.
Justin T. Canal M. Dominique Tremblay, speaking of Monsieur T, comment allez-vous?
Bien, vous?
Oui, ça va super bien. Bon, là, il y a un problème de basket en fauteuil roulant. Est-ce que, sérieux, là, l'idée de retirer le basket en fauteuil roulant des Paralympiques de 2024, peut-être même de 2020, c'est de la négo, en anglais, on dirait du posturing, pour, tu sais, c'est de faire les gros yeux pour arriver à une entente, ou, selon toi, c'est vraiment sérieux, cette idée?
Je pense que c'est plus une tactique okay. de négociation, mais le Comité paralympique international est comme un peu tanné de la situation, ouais. donc a décidé de dire, si vous faites pas ce qu'on vous demande d'ici la fin du mois de mai 2020, vous participerez pas aux Jeux de Tokyo, et si vous modifiez pas certaines choses d'ici la fin du mois d'août 2021, ben on va passer à autre chose pour Paris.
Bon, alors parlons-en des problèmes. Il s'agit de classification.
Oui. Donc, pour mettre en contexte un peu c'est quoi la classification, c'est ce qui permet à travers tous les sports au niveau paralympique que les athlètes, dépendant de leur handicap, puissent avoir une chance égale de médaille, disons. Donc, pour donner un exemple, en boxe ou en judo, il y a la balance qui dit que tous les athlètes qui pèsent entre, par exemple, 52,1 kg ouais. et 56,9 kg vont compétitionner dans la catégorie 57 kg et moins.
Tout à fait.
La classification fonctionne de la même façon. Donc, le Comité paralympique international, en 2015, a mis en place un code qui régit la classification, qui est différente d'une fédération internationale à une autre. Évidemment, puisque le sport est différent et que l'handicap pour qui les athlètes qui pratiquent ce sport peut être aussi différent. Il y a 5 standards qui sont en place. Donc, le type de impairment, ben, handicap éligible, le processus d'évaluation des athlètes, le processus d'appel et de protège, les personnels, donc les classificateurs et l'entraînement des classificateurs, et ainsi aussi finalement la protection des données de classification.
OK.
Le désaccord entre la Fédération internationale de basketball en fauteuil roulant et le Comité paralympique international se situe au niveau des handicaps éligibles à jouer au basketball en fauteuil roulant.
Est-ce que c'est une demande des athlètes, cette divergence? Est-ce que les athlètes ont parlé au CPI pour dire « Nous, là, on n'aime pas ce qui se passe dans notre fédération. » Le sais-tu?
Je ne pense pas, parce que en termes d'expérience, de ce que j'ai vu dans côtoyer ce monde-là, c'est qu'à chaque cycle de 4 ans, le Comité paralympique international demande à chaque fédération d'évaluer certains aspects de son sport, classification étant un de ceux-là, pour dire si il mérite d'être faire partie des sports inclus dans les Jeux paralympiques. C'est pour ça qu'à Tokyo, il va y avoir 22 sports. Et par exemple, le power chair soccer, le football, le soccer en chaise motorisée n'en fait pas partie parce qu'il n'a pas inclus ces critères-là.
Mais depuis quand? Là, tu disais quoi? Depuis 2015? Pourquoi maintenant, là, tout d'un coup, on décide de mettre la menace à exécution?
Donc, ça fait 1 an et demi que la Fédération internationale de basketball et le Comité paralympique international négocient sur les termes d'handicap éligible à jouer au basketball en fauteuil roulant. Puisque ça fait 1 an et demi là, que le questionnaire a été rempli par chacune des fédérations. Depuis ce temps-là, probablement que ça avait indiqué que le basketball était en fauteuil roulant était inclus à l'intérieur de Tokyo 2024, mais qui devait régler le problème de classification.
Ouais.
Depuis ce temps-là, ils sont en négociation, ils se parlent, moi je veux tel mot, le Comité paralympique international dit non, c'est pas ce mot-là, c'est celui-là. Puis là, on est rendu à, on n'est pas plus avancé. Le Comité paralympique international a dit, j'aime pas la direction dans laquelle ça s'en va. Vous devez régler le problème d'ici le 29 mai 2020, sinon vous n'êtes pas à Tokyo.
Mais on s'entend que c'est probablement, mis à part, disons, le 100 mètres en fauteuil, là, c'est une des épreuves phares de la quinzaine paralympique, le sport en fauteuil roulant, c'est télégénique, c'est là depuis, c'est établi depuis longtemps. Ce serait intéressant de voir, en tout cas, s'il y a des joueurs qui, par mauvaise classification, sont supérieurs et rendent des équipes outrageusement plus fortes que d'autres, ou j'essaie de comprendre pourquoi maintenant. Là, en fait, j'essaie de comprendre pourquoi.
En termes, si on regarde le livre de classification, il y avait 2 éléments de la question. Premièrement, s'ils retirent le basketball en fauteuil roulant, c'est comme si on retirait le hockey sur glace pour les Jeux olympiques d'hiver, qui est un peu impensable.
Ouais.
Mais si on en arrive là, on en arrive là.
Ouais.
L'autre chose,
50 secondes.
50 secondes, ouais. Rapidement. C'est juste dire, en classification basketball en fauteuil roulant, on dit que les athlètes qui sont éligibles ne peuvent pas pratiquer un sport debout régulier.
OK.
Tandis qu'au Comité personnes, on dit qu'il doit avoir certains types d'handicap, pas de type de fonctionnalité qui leur manque pour pratiquer le sport.
OK. Différence
de terminologie
qui
cause le problème.
Ouais. On essaiera d'y revenir, en tout cas, ça c'est certain, parce que de toute façon, la situation est importante. Dominique Tremblay, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Merci Jean-Sébastien, tu restes là, on va parler balado, il sera question d'histoire à J'entends des voix. Merci également à Christiane à la mise en onde pour les auditeurs, à la mise en onde, oui, à la recherche, merci pour Christiane. Et pour les auditeurs de Canal M, restez là, aux autres à la semaine prochaine.